Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vous raconte aujourd'hui une affaire criminelle de l'après-guerre. L'affaire Miss et Thiénou. Deux paysans de la Brenne, au sud du Berry, condamnés par trois fois pour le meurtre d'un garde-chasse, Louis Boitard, en décembre 1946. Et pourtant, vous verrez, c'est une enquête bâclée, menée par un commissaire de police, Darrault, qui a été la honte de la police française. La réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Vous connaissez la Brenne? Non? Ah, je vous invite absolument à y aller. C'est une région du sud du Berry, dans le département de l'Indre. Le pays des mille étangs, comme on l'appelle. Un paradis d'oiseaux, de papillons, de libellules, de grenouilles, de crapauds. L'hiver, quand le brouillard est épais et visqueux, on ne distingue plus la terre de l'eau. Les étangs sont alors tout entiers livrés aux hérons et aux canards. Il n'y a guère que les chasseurs et leurs chiens pour oser déchirer le rideau de brume et s'enfoncer dans les hautes herbes. Le 29 décembre 1946, c'est le dernier jour de la chasse. On n'y voit pas à 10 mètres. Le paysage est fantomatique. Christian Grosjean, qui vit au hameau de la Blinerie à Saint-Michel, n'aurait manqué cette dernière journée pour rien au monde. Il a pris avec lui son domestique, Albert, et l'un de ses amis, un garçon de presque 20 ans, Gabriel Thiénou. Un petit gabarit, 1m52, 43 kilos. C'est la première fois que Gabriel va chasser. Les trois hommes commencent à arpenter les terres de Christian. Mais à midi, ils sont bredouilles. Et là, ils croisent un autre groupe de chasseurs, des voisins, les Miss. Jacob Miss, un Polonais qui est arrivé il y a 6 mois à peine et qui ne parle pas très bien français. Et là, avec ses deux fils, Raymond et Stanislas, et puis son beau-frère. Et une ribambelle d'invités. Et eux aussi ont la gibecière vide. Alors on plaisante, on se charrie. Oh ben, c'est pas aujourd'hui qu'on va ramener le repas du jour de l'an, hein ? Les deux groupes se séparent pour déjeuner, mais ils se donnent rendez-vous pour aller chasser ensemble l'après-midi. L'après-midi, ils sont donc 14 à s'entasser dans une vieille hotchkiss et à prendre la direction du bois Jacques des Boeufs sur la route de Mézières-en-Brenne. Un bois qui appartient à Christian Grosjean. À peu près au même moment, à quelques kilomètres de là, un homme sort de chez lui, une petite maison au volet bleu. Il s'appelle Louis Boitard. Il a 31 ans, c'est un gars solide, aux oreilles légèrement décollées. Depuis 9 ans, c'est l'un des deux gardes-chasse du château du Blison, un domaine de 2800 hectares composé de 28 fermes qui appartient à un riche industriel, un descendant du prince Murat qui a fait fortune dans le sucre, Jean Le Baudy. Et Louis est chargé de surveiller ses chasses, ses coupes de bois et la pêche de ses étangs. Il vient de déjeuner avec sa femme et ses deux filles. Et les filles étaient toutes excitées parce que cet après-midi, pour la première fois, les maîtres, les Le Baudy, ont organisé un arbre de Noël au château. Un an après la fin de la guerre, pas question de manquer ça. Mais Louis n'ira pas à la fête. C'est le dernier jour de la chasse. Il doit aller surveiller les terres avec son chien. La nuit tombe, Boitard n'est pas rentré. Sa femme va se coucher vers 11h, il n'est toujours pas là. Elle se réveille en sursaut à 1h du matin, toujours pas de Louis. Mais le chien Tango, lui, est rentré, elle l'entend. Il est rentré tout seul, sans son maître. Morte d'inquiétude, à 3h du matin, la femme de Louis Boitard va réveiller le régisseur du château. suis très inquiète. Louis, il n'a pas rentré. Il est arrivé quelque chose, je le sens.
Le régisseur prévient les gendarmes de Mézières-en-Brenne et dès l'aube, ils organisent une sorte de battue. Les gendarmes, les fermiers du coin et les gardes du château, ils y passent toute la journée. Ils fouillent les étangs, les landes, les bois. Mais quand la nuit arrive, ils ne l'ont pas trouvé. Ce sont des chasseurs qui le retrouvent le lendemain matin, un peu avant 10h, sur le bord de l'étang des Saules, à Saint-Michel. Mort. 4 coups de fusil. Il gît sur le ventre, en partie immergé. Une de ses bottes est à moitié sortie, comme si on l'avait traîné par les pieds. Il a à côté de lui sa gibecière, sa casquette et son fusil. Et les gendarmes sont surpris.
Ben, je comprends pas. On a passé là hier, et il y était pas. On l'aurait vu.
Bon, ça ressemble à une partie de chasse qui a mal tourné. Qui a chassé dans le coin hier?
Ben, il y a les Miss, là, les Polacs, et puis les Gros-Jean et toute leur smala.
Et assez vite, les accusations se focalisent sur un chasseur. Le petit Gabriel Thiénot, 19 ans, qui accompagnait Gros-Jean. C'est la propre femme de Boitard qui le désigne. Elle le connaît depuis tout petit.
Je dis que c'est lui, l'assassin de mon mari. Il a le diable en lui, ce petit.
Et pourquoi donc, madame Boitard?
Tout le monde y sait qu'il a des armes de guerre chez lui. Tout le monde.
Ha! Des armes de guerre en 1946, mais tout le monde en a. N'empêche que le 1er janvier 47 au matin, le jeune Gabriel est arrêté. Et dans la foulée, tous les chasseurs des deux groupes. Ils sont tous conduits à la gendarmerie de Mézières-en-Brenne, qui se révèle trop petite, alors on réquisitionne la mairie. Leur cauchemar ne fait que commencer. On les interroge un par un.
Alors, racontez-moi votre dimanche. Bon, on a chassé. On n'a pas pris grand-chose. Hein. Mais Thiénot, il a tout de même tiré un lapin. Mais bon, lui, on est tous rentrés bredouilles. Voilà.
L'affaire est un peu grosse pour les gendarmes du coin. Et donc le dossier change de main. Et désormais, c'est la police judiciaire de Limoges qui mène l'enquête, avec à sa tête un sacré lascar. Le commissaire Georges Darrault, un beau bébé de 128 kilos. Je dois vous prévenir, il y a quelques mois encore, Darrault roulait pour Vichy. Il avait une totale admiration pour Pétain. Il a personnellement participé à des rafles de juifs étrangers en août 42. C'est un collabo, un vrai collabo, qui a échappé aux purges, et il n'est pas le seul. Et donc, c'est pas le genre à faire des chichis pour quelques gifles, quelques coups bien placés ou un seau d'eau sur la tête. La première fois qu'il voit les prévenus, le petit Gabriel Thiénot et tous les autres, il leur dit
« Tu vois ce poil ? C'est un poil, n'est-ce pas ?»
Eh bien, si je veux que ce soit une machine à écrire, tu diras, c'est une machine à écrire. Tu verras, on y arrivera, mon petit. Soyons clairs, le commissaire Darrault pratique la torture. Et sa préférée, c'est la prière des Juifs. Hein, vous mettez des morceaux de bois entre les doigts et vous serrez très fort. Ça fait très mal et ça peut entraîner l'éclatement des phalanges. Alors bien sûr, Gabriel Thiénot et ses amis ne sont pas juifs. Mais le jeune Thiénot est communiste. Et les communistes pour Darrault, c'est de la vermine. Et ce Raymond Miss là, ce Polak, de la vermine lui aussi. Et là ça va très vite. Deux vermines égale deux coupables. Darrault dit à la presse
« Oh, ils n'ont pas encore avoué. Mais ça va venir. »
La garde à vue s'éternise. Un jour, deux jours, trois jours, quatre jours. Et tous les jours, Jean Le Baudy, le propriétaire du château, passe prendre des nouvelles de l'enquête. Ben c'est bien normal, le garde Boitard était son employé. Il arrive, les bras chargés de boissons et de cigarettes qu'il distribue. Il y a du nouveau, commissaire. Et parfois, Darro l'invite à assister aux interrogatoires. Ah, c'est absolument illégal, hein, mais c'est le châtelain. Un jour, il offre au commissaire un chien de race. Et puis il fait un chèque de 50 000 francs aux œuvres sociales de la gendarmerie et un autre de la même somme aux bonnes œuvres de la police. Il est vraiment charmant, ce monsieur Le Baudy. Quel homme délicieux! Si avec tout ça, le commissaire ne boucle pas son enquête, rassurez-vous, ça vient. Le 8 janvier, après 8 jours de garde à vue, les prévenus craquent les uns après les autres.
Bon, j'avoue, on a eu des mots avec Boitard. Et c'est le petit Tieno et les Montmis qui l'ont tué. Vers quelle heure? 3 heures, l'après-midi.
Eh ben voilà, je vous avais dit que c'était une machine à écrire, ce poêle à bois. Il n'y en a que deux qui sont mis totalement hors de cause. Grosjean et son valet Albert. Renvoi d'ascenseur. Le valet est un peu demeuré. Ils l'ont utilisé pour charger les autres. Et donc, au bout de 8 jours, les autres signent tous leurs aveux. Et à la fin de la garde à vue, il faut nettoyer le sol de la mairie à grandes eaux parce qu'il y a du sang et des touffes de cheveux arrachés sur le sol. Et d'ailleurs, quand ils arrivent à la prison de Châteauroux, le gardien-chef remarque qu'ils ont les mains et le visage très abîmés. Il y en a deux qui saignent derrière les oreilles. Alors il fait appeler le docteur, parce qu'il ne faudrait pas qu'on pense que c'est à la prison qu'on leur a fait ça. Voilà, l'affaire est bouclée. Ah, ce détail près qu'il manque des preuves. Des éléments matériels. Les policiers en trouvent, en fouillant la ferme des Miss, les Polacs, le fusil de Raymond, et des vêtements tachés de sang. Et puis, il y a la montre du garde-chasse. On l'a retrouvée dans sa poche, arrêtée, noyée. Elle indiquait 5h05. Ça colle. Il le tue en milieu d'après-midi, il le traîne jusqu'à l'eau, ça signe l'heure du crime. Et voilà donc le scénario retenu par le commissaire Darro. Les chasseurs se disputent avec Louis Boitard vers 14h30-15h. Le garde et les chasseurs se croisent à nouveau vers 4h de l'après-midi. C'est à ce moment-là qu'a lieu le meurtre. Raymond Miss abat Boitard de 2 coups de fusil et le jeune Gabriel Tieno l'achève en lui tirant dans le dos. Ensuite, il continue de chasser et c'est à ce moment-là que Gabriel Tieno tue son lapin. Après, tout le monde va boire et manger chez les Miss et c'est là que le groupe scelle un pacte de sang. Il se jure de ne jamais parler de ce qui vient de se passer. Et ça n'est qu'après qu'ils vont déplacer le corps de Boitard jusqu'à l'étang des sols, 600 mètres plus loin. Il est 5h05, l'heure à laquelle la montre s'arrête. Mais le problème, c'est que la montre, quand on la remonte, ce sont les gendarmes qui le racontent sur procès-verbal, quand on la remonte, eh bien elle marche. Ce qui veut dire que c'est le garde qui ne l'avait pas remontée. Et c'est donc pour ça qu'elle s'est arrêtée à 5h05. C'est pas à cause de l'eau. Elle marche très bien, cette montre. Et tout est à l'avenant. Le fusil de Raymond Miss, l'armurier de Mézières-en-Brenne est formel. Il a un percuteur cassé. Il ne pouvait tirer qu'un seul coup. Or, dans le scénario de la police, Miss est censé en avoir tiré 2. Et puis, on a identifié une empreinte de pas près du cadavre. Ça n'est pas la chaussure de Raymond Miss. En vérité, il n'y a absolument aucune preuve matérielle pour étayer le dossier de l'accusation. Aucune. Et d'ailleurs, le 13 janvier, 5 jours après les aveux, tous les chasseurs se rétractent devant le juge d'instruction.
Moi, c'est le commissaire, monsieur le juge. Il nous a fauchés.
Sauf que le juge est un bleu. C'est un débutant, il ne peut pas lâcher un commissaire en début de carrière. C'est impensable. Et tout est à l'avenant. Le lendemain de ce revirement, le médecin légiste remet son rapport. Il ne colle pas du tout avec le scénario de la police. Les policiers disent que Miss a tiré les 2 premiers coups de feu de face. Or, le légiste prétend que les 2 premiers coups de feu ont atteint les épaules. De face, ça ne tient pas. Et c'est pas fini, hein. Le 30 janvier... Albert, le valet un peu nigaud, sur qui repose une grande partie de l'accusation, se rétracte en présence d'un avocat et d'un huissier.
Moi, je sais rien du crime. Tout ce que j'ai dit, c'est les policiers qui m'ont dit.
Vous en voulez encore? Le 14 mars, les gendarmes bons camarades révèlent que les policiers ont autorisé le châtelain, monsieur Lebaudy, à assister aux interrogatoires. Monsieur Lebaudy et son régisseur, monsieur Béthune. C'est une faute de procédure, et du coup, le juge d'instruction est dessaisi. Un nouveau juge débarque sur le dossier, mais c'est trop tard. La machine judiciaire est enclenchée. Rien ne pourra plus l'arrêter. Parce qu'à l'époque, ça ne traîne pas. 6 mois après le meurtre, le 24 juin 1947, le procès de Miss et Thiénot s'ouvre devant la cour d'assises de Château, pour 3 jours. La femme du garde Boitard et ses enfants ont enrôlé un ténor du barreau de Paris, Maître Garçon, qui vient par ailleurs d'entrer à l'Académie française, dans la même fournée que Paul Claudel, que Marcel Pagnol, que Jules Romain. À Châteauroux en 1947, je peux vous dire que ça fait son petit effet. Et qui paye, d'après vous? Eh bien, comme toujours, monsieur Lebaudy, le châtelain. Je ne m'attarde pas sur ce procès parce que des procès, il y en aura d'autres. Retenez qu'à l'issue, le 27 juin 1947, à 2h30 du matin, la cour d'assises de l'Indre condamne Gabriel Thiénot et Raymond Miss à 15 ans de travaux forcés. Ce verdict est cassé par la Cour de cassation pour vice de procédure. Le greffier s'est trompé dans la procédure de prestation de serment de plusieurs témoins à charge. Il y aura donc un autre procès. Et voici donc le deuxième procès. Il a lieu à Poitiers en décembre 1948, 2 ans après le crime. Et les choses se présentent d'une manière tout à fait différente. Car l'opinion a basculé du côté de Raymond Miss et de Gabriel Thiénot, grâce au journal Détective qui, 2 mois plus tôt, a publié un long papier avec un titre qui s'est allé en double page, 8 innocents. Et ça change tout le regard de la presse. Et dans la foulée, l'opinion des gens. En conséquence de quoi, une vedette du barreau de Paris, Maître Le Troquer, qui sera plus tard président de l'Assemblée nationale, a accepté de défendre les accusés. Ça change tout. Garçon, Le Troquer, l'affiche est parfaite. À la fin, on demande aux 2 principaux accusés, comme il est d'usage, s'ils ont quelque chose à ajouter avant que les jurés ne se retirent. Raymond Miss se lève.
Je jure devant Dieu et sur la tête de ma maman, je suis innocent.
Le jeune Gabriel Thiénot se lève à son tour.
Je jure sur la tête de ma mère et de mon frère qui a été fusillé par les Allemands. Je suis innocent.
Et pourtant, à 3h30 du matin, Raymond Miss et Gabriel Thiénot sont condamnés à 20 ans. De travaux forcés, 5 ans de plus. Dans la salle, on n'y croit pas. Les jurés sont pris à partie par la foule. Ils crient « Miss et Thiénot, innocents !» Les gens ne comprennent pas que la justice s'acharne. mais ce verdict est cassé lui aussi. Il y a donc un troisième procès à Bordeaux en juillet 1950. Là encore, il dure 3 jours et il se termine une fois de plus par une condamnation à 15 ans de travaux forcés. Mais pourquoi diable ? Oh, c'est facile à comprendre. Le dossier d'instruction est à charge. Et dans ce cas-là, vous pouvez plaider ce que vous voulez. Si ça n'est pas dans le dossier, ça ne compte pas. Maître Le Troquer écrit à Gabriel Thiénot. Si vous aviez été jugé par un jury indépendant des magistrats, vous auriez été acquitté. C'est QFD. Par 3 fois, les magistrats qui ont lu le dossier de A à Z ont entraîné tous les jurés dans une lecture biaisée de cette affaire. Voilà. Normalement, ça s'arrête là. Amy et Thiénot partent au bagne. Sauf qu'à l'été 1952, dans la presse, le principal témoin à charge, le fameux valet un peu neuneux, Albert Nicéron, se rétracte encore plus qu'il ne l'avait fait jusque-là. Il écrit, enfin c'est reformulé, hein, parce que lui est bas de plafond, « L'expression de la vérité est qu'à aucun moment nous n'avons, mes camarades de chasse et moi-même, rien vu sur le crime du garde Boitard. Mes déclarations mensongères m'ont été dictées par M. Béthune, régisseur de M. Lebaudy, et par les enquêteurs de l'époque. C'est pour libérer ma conscience que je fais cette déclaration. » L'effet est immédiat. La presse s'empare de l'histoire, l'opinion s'engouffre derrière, et au bout, le président de la République, René Coty, décide de gracier Raymond Miss et Gabriel Thiénot. Il efface l'addition de sa justice bancale. Attention, hein, la grâce du président Coty n'efface pas leur condamnation, elle les dispense juste d'exécuter la peine. Miss et Thiénot restent les assassins du garde Boitard. Et donc, Raymond Miss et Gabriel Thiénot sortent de prison en 1953. Ils sont épuisés par la détention, épuisés par leur combat pour en sortir. La prison leur a volé toute leur jeunesse. Alors, ils se fondent dans la masse et on n'entend plus jamais parler d'eux pendant 25 ans. Et c'est un homme qui va venir les réveiller en 1978 et leur dire « Oh les gars, vous ne pensez pas que vous mériteriez de voir votre honneur lavé ?» Ce garçon s'appelle Léandre Boiseau. Il est instituteur, il a la barbe qui va avec. Et à Châteauroux, il est le chantre de la culture locale, le Pierre Bonte du sud du Berry. Et il a des amis à la NR, comme on dit là-bas, la Nouvelle République, et aussi au Berry républicain. Et il se passionne pour cette affaire. Il va aux archives, il ressort le dossier Miss et Thiénot, et il écrit le livre de référence « Ils sont innocents » qui fait un carton. Et dans la foulée, il crée un comité de soutien et demande la révision de la condamnation. Il est courageux, ou alors inconscient. Il veut obtenir la révision d'un verdict qui date d'il y a 25 ans. Je vous le dis tout de suite, ça va être long. Très long. Trop long. Première requête en révision, 1980. Pourtant nourri de 3 nouveaux éléments. Rejeté. Deuxième requête en révision, 1988, portée par un avocat de Châteauroux qui s'appelle Maître Jean-Paul Thibault. Rejeté, elle aussi.
Comment humainement peut-on concevoir que non seulement Raymond Miss et Gabriel Thiénot, mais les 6 autres chasseurs puissent pendant 60 ans clamer leur innocence si véritablement ils sont coupables? La justice n'est pas capable de comprendre cette notion qui est une notion humaine, psychologique. Elle est incapable de reconnaître qu'elle a pu se tromper il y a 60 ans. Elle reste dans ses certitudes. Elle donne une image épouvantable de la justice. C'est véritablement un désastre judiciaire supplémentaire que s'inflige la justice de ce pays.
1991, troisième requête, rejetée. Miss et Thiénot sont là à la sortie de l'audience.
C'est une honte ce qui s'est passé aujourd'hui en France. Honteux pour les magistrats de notre pays, de la France. un pays soi-disant des libertés et de la justice. Je suis complètement écœuré, mais pas abattu, croyez-moi. Je vous remercie tous. Merci à tous d'être là.
1996, quatrième requête, rejetée. 2005, rejetée. 2013, rejetée. Six requêtes, six refus. Entre-temps, Gabriel Thiénot est mort en juin 2003, à l'âge de 76 ans. Et Raymond Miss l'a suivi 4 ans plus tard, à l'âge de 83 ans. Mais le combat continue. Et 70 ans après, une nouvelle piste apparaît. Il y a toujours aujourd'hui un comité de soutien actif à Châteauroux. Un avocat parisien, Maître Mignard, l'ami de François Hollande, a le dossier sur son bureau. Et il n'exclut pas de déposer une 7e demande de révision. Mais la grande nouveauté de ces dernières années, c'est que on a peut-être trouvé l'assassin, le vrai. Dans la foulée d'un livre publié il y a quelques années aux éditions Phébus, « Les enfants du brouillard » de Jean-Claude Deray. Il y est question d'un certain Désiré Brunet. Un petit gars du coin, lui aussi, qui avait une ferme très proche du lieu où on a retrouvé le cadavre. Et qui avait dit à l'époque « Bah moi j'étais dans le champ, à travailler ma terre, puis j'ai entendu une altercation entre le chasseur et puis le garde de Boitard. J'ai bien entendu quand des chasseurs ont dit au garde « Je t'emmerde !» Témoignage qui avait nourri l'accusation, sans que ça soit non plus un élément clé. Eh bien aujourd'hui, l'écrivain Jean-Claude Deray et dans la foulée le comité de soutien disent « L'assassin, c'est lui. C'est Désiré Brunet, c'est le voisin délateur, c'est lui qui a tué Boitard. » Car Désiré était un braconnier et il aurait été l'amant de Madame Boitard. D'ailleurs, sa propre fille, Paulette, l'a accusé et dénoncé. Et un couple de témoins, des amis de Désiré Brunet, dont les déclarations figurent dans la 5e demande en révision, affirment que Désiré Brunet s'est dénoncé devant eux. Alors disons-le tout de suite, hein, Désiré Brunet est mort. Il ne sert à rien de l'accuser, il n'y aura pas de suite. Et puis, faut-il faire à Désiré Brunet très exactement ce qu'on a fait à Miss et Thiénot, c'est-à-dire accuser sans preuve. Est-ce qu'on ne se ment pas quand on prétend faire émerger la vérité 70 ans après? Voilà pour cette histoire. Je vous ai parlé de Léandre Boizeau, qui est l'homme qui a réveillé cette affaire et tenté d'obtenir une révision. L'homme qui a écrit le livre de référence de cette histoire, Ils sont innocents, aux éditions La Bouinotte, qui est sa maison d'édition. L'homme qui a permis donc ces 6 demandes de révision, il est là au téléphone. Léandre Boizeau, un mot sur cette nouvelle piste, celle de Désiré Brunet. Est-ce qu'il faut accuser quelqu'un sans preuve pour innocenter deux hommes?
Non, ce n'est d'ailleurs pas une nouvelle piste. Il y avait un faisceau de témoignages qui l'accusait. Mais ça n'a jamais été notre combat. Nous, on a toujours pensé et dit qu'il y avait suffisamment d'éléments qui prouvaient l'innocence de Miss Thiénot pour ne pas aller chercher un coupable dont on n'avait pas de la certitude qu'il fut coupable.
Donc vous n'enfourchez pas ce cheval, quoi.
Non. C'est pas notre cheval de bataille. Non, nous, on a découvert une vérité, par contre, avec les tout au cours des requêtes en révision, à laquelle nous sommes très attachés, c'est que dans les archives de la chancellerie, il y avait un dossier qui nous a intéressés. Il a été découvert par un magistrat instructeur de la Cour de cassation, M. Pommetant. Il s'agit des résultats de la commission qui a été menée pour la fameuse enquête pour permettre au président Coty d'opter pour la grâce ou non. On a tendance à banaliser cette grâce présidentielle, mais c'est quand même un événement tout à fait exceptionnel.
C'est vrai.
Or, cette grâce n'a été accordée qu'après une enquête très approfondie, au cours de laquelle on a découvert que, effectivement, le commissaire Barrault avait pratiqué des tortures, des violences extrêmes sur ces 8 jeunes garçons à l'époque, Et du coup, ces violences, qui jusqu'alors n'avaient jamais été acceptées par la justice, l'ont été et sont reconnues désormais par la justice. Je vous lis deux lignes de l'avis de l'avocat général du 7 mars 2014. Il est indiscutable à cet égard que si le procès dont la révision est demandée était jugé aujourd'hui, les procès-verbaux concernant les aveux des intéressés et les déclarations de ceux qui les accusaient auraient, avec les actes et les pièces en découlant, donné lieu à de sérieuses exceptions de nullité en raison des trop graves suspicions de violence pesant sur les conditions dans lesquelles ces aveux et déclarations ont été recueillis.
Mais en l'état du droit français, Léandre Boiseau, ça ne suffit pas pour annuler une condamnation, quoi. Il faudrait un élément nouveau.
Oui. Alors, des éléments nouveaux, on en a fourni, je ne sais combien, d'ailleurs, maintenant, très très nombreux, tous plus probants les uns que les autres. Mais on s'est rendu compte que la Cour de cassation, finalement, ne prenait pas ses décisions sur ces éléments nouveaux. Elle veut juridiquement pouvoir entrer dans un cadre précis. Et là, d'après ce qu'on a compris, nous, au cours de la dernière requête en révision, le président de la commission a dit « adressez-vous au législateur ». Ce qui signifiait en clair que, oui, il y a eu violence, oui, il y a eu torture pour obtenir les aveux, mais le cadre juridique français ne prévoit pas de nullité pour les aveux obtenus par la torture. Il faut donc qu'on obtienne un amendement à la loi sur la révision. C'est le sens de notre combat actuel.
Est-ce qu'il y aura à votre connaissance une 7e requête de demande à révision qui serait défendue donc par l'avocat Jean-Pierre Mignard ?
Oui, mais ça passe d'abord par cet amendement. Donc c'est au niveau des parlementaires qu'on est en train d'essayer d'obtenir ça d'eux. Et déjà nos parlementaires de l'Indre sont d'accord pour présenter un amendement à la loi sur la révision qui ferait que l'affaire Missetiello pourrait entrer dans ce cadre-là.
Vous êtes toujours certain aujourd'hui, évidemment, Léandre, de l'innocence absolue de Raymond Miss et Gabriel Thiello ?
Plus que jamais.
Le fait que l'enquête a été bâclée, orientée, tordue, ne signifie pas qu'ils sont innocents.
Non. Non, non. Il y a quand même un élément qui aurait dû être examiné de près par les enquêteurs, mais ils n'ont pas fait leur métier. Il y a une vérité vraie, c'est que les jeunes gens en question, les 8, même les 10 qui étaient à la partie de chasse, ne se connaissaient pas dans l'heure qui a précédé la partie de chasse. Et ça, ça aurait dû être vérifié. Miss ne connaissait absolument pas Thiello. Ils ne s'étaient jamais parlé. Ils s'étaient entrevus une fois, mais c'est tout. Les frères Thibault, qui étaient établis bouchers à Saint-Genoux, ne connaissaient absolument pas les Miss, ni Thiello, ni grand monde. Ils ne connaissaient qu'un proche qui était Chichri.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu conclure ce pacte de silence, puisqu'ils ne se connaissaient pas.
Le fameux pacte de sang auquel vous faisiez référence tout à l'heure, c'est quand même une absurdité. Voilà des gens dont certains viennent de s'établir comme bouchers. Quel intérêt aurait-il à couvrir un meurtre qu'ils n'ont pas commis ? C'est désespérant de penser des choses pareilles. Comment les enquêteurs ont pu ne pas faire leur métier à ce point-là ?
Quels sont les points qui assoient votre certitude dans l'enquête du commissaire Darrot ?
Toutes les pièces du dossier, puisque j'ai eu accès au dossier, vont dans le sens que ils sont totalement innocents. Vous avez évoqué la montre. Ça, c'est ce que j'ai découvert dans le dossier, parce que lors des procès, ça n'a jamais été évoqué.
Et c'était
Maître
dossier,
Maurice Garçon. Ah ben oui, Maître Maurice Garçon, qui était l'avocat de la partie civile, a dit un jour dans une plaidoirie, et s'il ne reste qu'un témoin muet mais capital, c'est la montre. Mais même la montre était un faux témoin. Or, ça n'a jamais été mis, jamais le défenseur, Maître Le Troquer, n'a été mis au courant de l'existence de ce dossier de gendarmerie. C'est pas possible, sinon il aurait démonté.
Moi, ce que je trouve très convaincant, ce sont les gendarmes qui disent sur le moment, quand on découvre le cadavre, mais on est passé là hier, on l'a pas vu. C'est donc le signe que ce cadavre a été placé le lendemain à cet endroit-là.
Mais bien sûr, on a même une version qui mettrait en cause Désiré Brunet, selon laquelle le garde aurait été tué dans la cour de la ferme de Progardatois où Désiré Brunet était fermier, et il aurait été caché le soir même dans un fagotier qui était derrière la ferme. Et il n'aurait été transporté que le lendemain, dans les temps où il a été trouvé, avec les bottes retournées.
Et puis il y a le fusil qui ne tire qu'un coup. Moi, je trouve ça convaincant aussi. Si l'armurier n'est pas un idiot, s'il dit que le fusil ne tire qu'un coup, il ne tire qu'un coup. Et on ne peut pas tirer deux coups.
Oui, et il y a aussi un témoin dont on n'a pas tenu compte. Il y avait un jeune garçon dans l'équipe de chasseurs qui avait 14 ans, qui s'appelait Roland Chauvet. C'était le cousin d'un des chasseurs qui a été inculpé. Il a suivi toute la partie de chasse, ce garçon, et puis le soir, il fallait qu'il rentre à l'école des journalistes, à l'école d'enfants de troupe, où il a été entendu par la suite. Il a dit, moi j'ai été avec des chasseurs que je ne connaissais pas, on n'a jamais rencontré de garde, ils ne peuvent pas avoir tué un garde, parce qu'on n'a jamais rencontré de garde. Mais il n'avait que 14 ans, donc son témoignage ne pouvait pas être pris en considération. Ce garçon a fait une belle carrière, puisqu'il est devenu général de l'armée française. Et il a, lorsqu'on a déposé la première requête en révision en 1980, fait une très belle lettre disant, moi, sur mon honneur de général de l'armée française, je déclare me souvenir parfaitement de cette journée, puisque j'ai accompagné les chasseurs tout au long de la journée. Nous n'avons jamais rencontré de garde. Ils ne peuvent pas être les assassins du garde Boitard. Ce qu'on m'a répondu alors, c'est, je me souviens du magistrat qui m'a dit ça, écoutez, effectivement, c'est intéressant, mais ce témoignage n'est pas nouveau, en ce sens qu'il a déjà été entendu en 1947. Même si son témoignage ne pouvait pas être pris en considération, il a quand même été entendu. Ça, c'est une logique qui m'échappe, si vous voulez, qui échappe aux citoyens lambda, quoi.
Et pas que, à moi aussi.
Oui.
Léandre Boiseau, on a peu de temps. Lorsque vous passerez à de Patresse, est-ce que quelqu'un prendra la suite? Ou est-ce que c'est un drame à mémoire cette histoire?
Ah non, pas du tout. Je vais vous dire qu'il y a actuellement un comité qui est présidé par Helga Potier, qui est très très actif, avec une génération, parce que la première génération, celle qui était mienne, a pratiquement disparu. Je suis un des rares survivants. Mais ça y est, le relais est pris. On a un comité de soutien avec plus de 250 membres qui mènent de nombreuses actions. Et on a, il faut le dire, à mettre à l'actif de ce comité de soutien, 25 communes de l'Indre et du Cher qui ont donné le nom de Miss Étienneau à une rue ou un édifice public. Mmh. Ce qui veut dire aussi quelque chose. Parce que normalement, on n'a pas à faire ça. Normalement, il devait passer au tribunal administratif. Pas du tout.
Ça ne s'est pas fait. Ils feront ça pour l'honneur.
Bien sûr. Et pour la justice. Comment peut-on accepter qu'une justice fonctionne pareillement? C'est pas possible. Au-delà de l'honneur de Miss Étienneau, il y a l'œuvre de justice qui doit être faite.
Merci Léandre Boiseau d'avoir évoqué une fois de plus pour nous cette affaire qui a occupé une grande partie de votre vie. Je conseille votre livre qu'on trouve toujours sur Internet. Ils sont innocents, aux éditions La Bouinotte.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.